Comprendre aujourd'hui pour défier demain.
L'intelligence artificielle, on la connaît sous de nombreux autres termes. On entend parler de machine learning, aujourd'hui apprentissage automatique. On entend, voilà, c'est d'apprentissage profond, des termes comme ça qui sont dans l'air. Essayons tout d'abord de rappeler très brièvement. Quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, on parle majoritairement d'un traitement statistique d'une grande masse de données. Voilà. C'est important de poser ce cadre de compréhension, puisque par ce traitement statistique, on a des résultats remarquables. Le jeu de Go, par exemple, qui était un cas d'essai, mais qui est intéressant, montre qu'aujourd'hui, par ses capacités calculatoires, on arrive à dépasser des capacités proprement humaines. Donc en ça, c'est saisissant. Mais peut-être ne faut-il pas généraliser. C'est Evgeny Morozov qui parlait de solutionnisme, je crois que ce terme est très très important. Il faut faire attention que parce qu'on a inventé un marteau, on ne considère pas que tous les problèmes qu'on a traités sont des clous. Et on peut prendre différents champs, hein, la médecine, l'éducation, on va s'arrêter sur le cas de la justice. Peut-être que tous les problèmes pour la justice ne sont pas nécessairement des clous. Je m'explique très très rapidement. On a différentes offres logicielles qui sont sorties. Pas qu'en Europe, hein, mais aussi des États-Unis, qui utilisent les capacités de l'apprentissage automatique, une capacité particulière qui est le prédictif. L'idée est de pouvoir permettre l'aide à la décision à partir d'un examen statistique du passé. En ça, peut-être, rien de bien nouveau d'ailleurs entre nous, on a aujourd'hui les capacités de données et les capacités calculatoires qui nous le permettent, et pouvoir construire des outils qui répondent rapidement, c'est fantastique. En revanche, quand on commence à traiter de l'humain dans cette machine-là, et non pas comme pour le jeu de Go, hein, des pierres noires, des pierres blanches, 19 lignes sur 19 dans un environnement fermé, mais l'humain dans tout ce qu'il a de sa complexité, hein, j'entends dans un environnement ouvert, c'est peut-être beaucoup plus difficile de mettre en boîte des éléments. Alors, on a vu des solutions de justice prédictive hein, qui sont apparues aujourd'hui sur le marché. Elles sont déjà utilisées, en réalité, hein, que ce soit par des avocats, des assureurs, d'autres directions juridiques. Et ce qui est intéressant d'examiner dedans, c'est quelle a été la matière première qu'ils ont utilisée. La matière première pour pouvoir établir des prédictions, même si le terme, on pourra en débattre, n'est pas nécessairement précis, et la décision de justice, hein, c'est-à-dire les décisions qui sont publiées sur les bases de données. Et cela pose quelques difficultés. En tant que magistrat, je suis aujourd'hui détaché au Conseil de l'Europe, mais j'étais formé à l'école de la magistrature, je sais combien l'exercice de rédaction est complexe. Et où dans cet exercice de rédaction, on formalise souvent a posteriori un raisonnement juridique, mais dans lequel, en réalité, on n'a peut-être pas mis tous les éléments de causalité. Et aujourd'hui, essayer d'utiliser une méthode statistique en partant du principe qu'on nous trouverait tout dans la décision de justice est peut-être un peu hâtif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un intérêt à utiliser de la statistique. Ce que aujourd'hui me saisit, c'est qu'on ne peut peut-être pas utiliser les décisions de justice de manière brute pour pouvoir opérer ce type de calcul prédictif, mais il faudrait certainement d'autres éléments autour de cela, beaucoup plus complexes, pour essayer d'affiner ce travail-là. Et puis, en toute hypothèse, un travail de prédiction n'est qu'un travail de rétroviseur. On regarde sur le passé. Chaque affaire est individuelle en tant que telle. Et je pense que l'intervention de l'homme est essentielle. Je pense au rôle de l'avocat, tout d'abord. C'est-à-dire que malgré un algorithme qui va peut-être lui proposer un montant de compensation possible au regard de la jurisprudence, toute la singularité du cas est toujours intéressante. Et le calcul statistique en tant que tel apporte, si on n'est pas attentif, une part de totalitarisme. Et je ferai référence aux travaux d'Adolphe Quetelet au XIXe siècle, qui avait inventé ce concept d'homme moyen. C'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que pour lui, il avait transféré le champ de la statistique dans un champ politique, et où il se disait qu'il n'y avait pas rien de mieux que de bon que cet homme moyen vers lequel la société devrait tendre. Et donc, aujourd'hui, je pense que par ces méthodes de calcul, on arrive certainement à établir des voies, même si le terme n'est pas mathématiquement juste, mais moyenne, hein, des décisions qui sont prises. Mais ce qui est plus intéressant que la moyenne, c'est les exceptions dans la courbe de Gauss qui se trouve sur les extrêmes. Et ne jamais oublier qu'une affaire, dans son individualité, se trouve peut-être sous cet extrême et n'est pas intégrée dans le milieu de la courbe de Gauss.